Bonjour et bienvenue sur Radio Galère sur le 88.4. Nous sommes dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs engagés sur les questions de transition écologique, sociale et culturelle à Marseille et sa région. Nous sommes en direct ce soir entre 19h et 20h en ce 22 juin. Vous pourrez retrouver également cette émission en rediffusion demain matin, le 23 juin, entre 9h et 10h, ainsi qu'en podcast sur radiogalère.fr lorsque vous tapez Écoforum. Je suis Marin, ce soir je suis accompagné d'Arthur.
Bonsoir.
Et nous avons le plaisir de recevoir Louise, Charlotte et Florent qui viennent nous présenter la base de Marseille. Bonsoir mesdames, messieurs.
Salut.
Bonsoir.
Salut.
Alors je vais vous laisser un peu peut-être commencer par présenter, donc je vous laisse cet honneur de présenter ce qu'est la base et puis ensuite nous pourrons un petit peu rentrer plus en détail sur les différentes activités que vous menez là-bas et puis les projets de société que vous faites germer.
Alors si je peux présenter la base Marseille, je vais lire la raison d'être, en fait c'est notre raison d'exister. Donc la raison d'être de la base Marseille, c'est de rassembler les Marseillais et les Marseillaises pour accélérer la transition vers une société juste, résiliente et respectueuse du vivant, grâce à la création d'un espace commun et autogéré qui est la base Marseille.
Super. Et alors du coup, si c'est un espace en autogestion, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'associations et de collectifs qui viennent s'y inscrire dans un écosystème complexe. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter comment ça se passe ?
Oui, bien sûr. On peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même 130 collectifs qui contribuent à ce lieu, la base à Marseille. Et aujourd'hui, ce fourmillement fait qu'en fait, on mène des actions sur le plan social, écologique, de plus en plus culturel. Et disons-le, hein, c'est vraiment très gratifiant, enrichissant. Et on a du mal à ne pas y passer de plus en plus de temps. Je trouve qu'on devient un peu accro en quelque sorte. Et, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je vais peut-être parler pour moi. Et je pense que les filles ne me diront pas le contraire.
Ouais, c'est un peu pareil. Au début, la première fois que je suis allée, c'était à Pas de Loup pour découvrir, etc. Et puis, au fur et à mesure, je me suis prise dans la vie au quotidien, en fait, de la base, parce que c'est un peu comme à la maison. Et maintenant, le plus dur, c'est de se retenir d'y aller.
Ce qui est intéressant peut-être effectivement avant vraiment de rentrer dans la base, c'est de pouvoir un peu expliquer quels sont vos parcours et ce qui vous y ont amené. Parce qu'un auditeur, une auditrice qui nous écoute, j'imagine que vous avez envie qu'ils viennent vous rejoindre pour pouvoir permettre ce grand basculement. Et souvent c'est une bonne façon de pouvoir un peu se reconnaître dans un parcours, se dire « Ah tiens, ça fait des échos avec ce que je vis, avec des questionnements que je peux avoir, qui peuvent être de l'éco-anxiété ou un besoin de se connecter ou de créer ensemble ». Donc si jamais vous avez un petit témoignage de parcours que vous avez envie de faire avant vraiment de pouvoir rentrer plus en détail, n'hésitez pas.
Moi, j'ai découvert la base pas du tout par hasard.
Ok.
Je suis arrivée sur Marseille pour mon alternance et j'y suis restée parce que j'ai trouvé du travail dans la région. Et auparavant, j'étais à Tours, donc plus côté nord-ouest de la France. Et j'étais impliquée dans les collectifs écologistes déjà, plutôt Extinction Rebellion, Alternativa, Action non violente comme 21. Et quand je suis arrivée dans la région, on m'a dit « Ah, je crois qu'il y a une base qui est là-bas, est-ce que tu voudrais pas aller voir ?» Donc c'est le premier lieu que j'ai visité à Marseille. Et c'est aussi peut-être la raison principale pour laquelle j'habite aujourd'hui à Marseille.
Pour la base ?
Pour la base, ouais.
Sacrée entrée en matière.
Moi, je suis arrivée totalement pas par le chemin normal, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent par les associations, justement, par les collectifs. Et moi, en fait, je suis arrivée par la base. En fait, j'ai vu qu'il y avait un accueil des nouveaux et des nouvelles qui était organisé en juin l'année dernière. Bon, ça fait un an que je suis à la base maintenant. Et en fait, ça faisait un petit moment que j'avais vraiment envie de militantisme dans ma vie. En fait, depuis longtemps, je soutenais des associations financièrement, mais j'avais vraiment envie d'action et de concret. Et du coup, je me dis, bon, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et du coup, je suis entrée dans ce lieu magique et je suis plus jamais repartie. Et vraiment, c'est super, en fait, pour voir déjà toutes les associations qui sont présentes et se rendre compte de la diversité des collectifs qu'on a à Marseille. sur l'écologie, mais sur bien d'autres sujets aussi. Et voilà comment je suis rentrée à la base.
Super. Et toi, Florent?
Je rejoins Louise dans le sens où l'envie d'agir, c'est ce qui m'a porté au départ. Plus en ce qui me concerne par la voie associative, puisque un collectif qui s'appelle Marseille en transition, qui est né il y a à peu près un an, et on y a la volonté d'ailleurs. Ah, j'ai un micro ouvert au passage, c'est peut-être pas pour rien. Petit clin d'œil. Au fait, en fait, que ce collectif, aujourd'hui, veut verdir son quartier, le quartier de Chartreux. On l'a précisé, je crois, que la base, d'ailleurs, est située dans ce quartier. Okay. Et aux 3 rues Pierre-Roche. Et depuis, effectivement, il y a un an sa création, on souhaite redorer, surtout végétaliser, en fait, un grand pan de ce quartier, en partenariat prochain et possible avec la Préhem, parce qu'il faut penser aussi, si on veut faire grandir des projets, qu'on n'est pas seul, loin de là. Donc moi, c'est ça qui m'a poussé. Aujourd'hui, je crois que je veux vraiment continuer de m'y engager. Et on va le faire, parce qu'on y croit.
Et ma petite question serait, qu'est-ce qui t'a fait découvrir la base? Parce que toi, tu nous dis que t'as découvert la base par ton envie d'agir dans des associations. Et donc, du coup, tu l'as trouvé à travers une association ou au bouche à oreille?
Oui. Oui, c'est par une association. Au départ, l'association qui faisait des réunions régulières, c'est la Roue Marseillaise, en fait, qui est donc l'association marseillaise de la monnaie locale, complémentaire et citoyenne, qu'on salue d'ailleurs ce soir. Et, ils m'ont fait effectivement découvrir ce lieu-là, et puis, donc du coup, son fonctionnement, parce que ce qui est intéressant et riche à la base, c'est son mode de fonctionnement. Au-delà, en plus des gens, des personnalités qu'on y voit, c'est... Je crois effectivement la façon dont c'est géré, autogéré, et puis voilà.
Bon, merci Laurent pour cette super transition, parce que ma question qui allait juste venir, c'est qu'est-ce qu'on y fait à la base, et pourquoi vous y allez, et qu'est-ce qui rend la base si addictif, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que vous avez tous abonnés présents là-bas maintenant. Donc, je vous en prie. Qui veut commencer?
Alors, pour commencer, moi, en fait, avec le travail, j'ai beaucoup de réunions. et même dans le milieu militant en général, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de réunions. Et c'est quelque chose qui m'a un peu saoulée. Je me suis dit, est-ce que vraiment mon engagement, j'ai envie que ce soit centré autour de débats qui peuvent... même s'ils sont très enrichissants et permettent de nous permettre d'évoluer dans notre façon de penser et dans notre vivre ensemble, ça, c'était un peu long et ça paraissait un peu sans fin et sans but. Et je me suis redirigée un peu plus vers ce qu'on peut appeler l'action directe, c'est-à-dire comment je peux agir au quotidien pour aujourd'hui faire la différence. Le premier mouvement que j'ai rejoint, c'est le collectif cuisine. Donc l'idée, c'est tout simplement tous les dimanches de faire à manger pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc on se retrouve, on fait à manger dans la cuisine de la base, c'est convivial. Et puis ensuite, on sort toutes les tables et les chaises sur la plage des Chartreux et grande distribution.
D'accord, une sorte de maraude locale juste pour la place à côté de la base.
C'est ça. Et tout le monde sait où c'est, juste par le bouche à oreille. Et c'est comme ça que ça s'est construit. Et la deuxième action que je fais, et il y a aussi Louise et Florent qui sont avec moi, c'est le bar. C'est un peu le lieu le plus convivial de la base. On peut se retrouver... se détendre, discuter, partager des bons moments. Et donc, participer au bar et permettre aux gens de se détendre à un lieu de ressourcement, en fait. C'est là-dedans que je me suis vraiment retrouvée.
D'accord, pour pouvoir rencontrer les personnes, aider.
C'est ça.
Parce qu'il faut rappeler quand même que la base, c'est un lieu autogéré par des bénévoles. Donc,
exact.
Le bar, il fonctionne pas tout seul. Il me semble qu'il n'est pas ouvert tout le temps.
Non, il est ouvert en fonction des disponibilités des bénévoles. Il est On essaye de se caler en fonction du programme de la base. Quand il y a beaucoup de collectifs qui y sont, on essaye que le bar soit ouvert. Donc le jour de la semaine phare, c'est le mardi, où on a toutes les salles qui sont pleines à craquer. On ne sait plus où mettre les gens maintenant. Et donc le bar est très très régulièrement ouvert le mardi.
On parle beaucoup d'autogestion là depuis tout à l'heure, en disant que les 130 associations collectifs qui sont à la base participent à cette espèce aussi de transition de forme d'organisation et de gouvernance. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus précisément ce que ça signifie en fait ? Parce que ça aussi c'est quelque chose d'assez incarnant. On parlera un peu plus tard de la question de la culture et de comment est-ce que il y a des imaginaires qui peuvent se transformer. Voilà. Qu'est-ce que l'autogestion et comment qu'est-ce que ça implique au quotidien ?
Je vais essayer de répondre à cette question. Pour moi, l'autogestion, c'est vraiment les collectifs et les associations. En fait, ils viennent dans la base et c'est leur base. En fait, ils prennent, enfin, on leur ouvre la salle s'ils sont pas référents base. Et ensuite, c'est eux qui vont de A à Z gérer leurs réunions, y compris le ménage avant et après, pour rendre le lieu dans lequel, enfin, dans le même état qu'ils l'ont trouvé. Et aussi, c'est enfin s'approprier la base, c'est-à-dire aussi s'impliquer eux dans la base. Enfin, on a d'ailleurs beaucoup de bénévoles qui font partie de collectifs et inversement. Et ouais, pour moi, c'est ça l'autogestion, c'est vraiment s'impliquer dans la base et aussi financièrement. Il y a beaucoup de collectifs qui nous aident à l'échelle qu'ils peuvent et c'est super.
Je rajouterai deux petites choses. En ce qui concerne l'autogestion, là où on peut trouver des difficultés, un frein parfois, c'est la question du formalisme et de la procédure qui peut prendre un certain temps et qui donne parfois, et peut-être comme tu dis Charlotte aussi, l'envie d'agir plus directement et sans nécessairement passer par la prise de décision. Et c'est là où en fait le modèle un peu se frotte à lui-même et sur lequel ben, voilà, il faut qu'on continue d'évoluer et de voir qu'est-ce qui mérite à chaque fois une plénière, un temps de prise de décision ou pas. Et en ce qui concerne ce que tu dis Louise sur l'autonomie en fait que les associations et collectifs ont dans l'occupation du lieu, et ben je pense qu'en fait il faut qu'on continue d'avancer aussi là-dessus parce que il faut que nos bénévoles en fait laissent aussi peut-être donnent un peu la place aussi à des personnes, des associations pour qu'elles puissent s'engager aussi dans la vie de la base, chose qui peut-être manque aujourd'hui et en tout cas dont on a besoin.
Et pour rebondir un peu sur ce que dit Florent, c'est la question en fait de la légitimité qui sous-tend un peu tout ça, c'est-à-dire que tout le monde est légitime de s'impliquer à la base, peu importe qui est arrivé au tout début ou qui vient d'arriver. L'essentiel, c'est vraiment de s'approprier, de se dire « Ok, ben, je suis légitime de prendre des décisions, je suis légitime de m'impliquer sans forcément avoir à demander... l'autorisation à quelqu'un de supérieur. Par contre, on est dans un vivre ensemble, donc effectivement, les décisions, elles sont prises collectivement. Et ben, comme le lieu est un lieu complexe, il y a plein de choses qui s'y passent qui ne sont pas forcément dites, tacites, ben, aller vers un référent pour lui poser des questions, pour mieux comprendre comment fonctionne la base.
Et du coup, pour suivre un peu tout ce raisonnement, aujourd'hui, comment ça se passe pour expliquer à quelqu'un qui est légitime d'agir, de faire des choses ? Comment ça se passe pour prendre des décisions ? Quel est votre schéma de processus ou votre organisation, en fait, votre gouvernance ? Comment elle fonctionne aujourd'hui pour faire en sorte que tout se passe bien dans tout ça ?
Du coup, on a des réunions assez régulières qu'on essaye de mettre en place. Mmh. C'est un peu dur parce qu'on a tous des agendas surbookés, mais donc on essaye de se voir en inter-GT, donc inter-groupe de travail, parce que du coup, on est divisé en différents groupes de travail, par exemple la programmation, la communication, les référents bars, les référents bases, etc. J'en oublie plein, il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, donc, du coup, on a ces moments-là d'échange où on peut vraiment échanger des informations entre nous et aussi... des moments où il y a vraiment des prises de décision, donc des plénières, où là, les différents groupes de travail vont proposer des décisions au collectif et collectivement, on va décider si oui ou non cette proposition va être validée ou non. Et ensuite, bah, après, on a l'Assemblée Générale une fois par an, mais du coup, on a ces plénières-là qui nous permettent de soulager et de prendre des décisions rapidement, collectivement.
Et alors là, oui.
Sachant que bah, les GT aussi peuvent avoir force de proposition dans leur propre champ d'action. Par exemple, pour la programmation, c'est eux qui vont décider de dire oui à tel ou tel collectif en fonction de différentes contraintes. Et chaque GT aussi peut décider à son échelle.
Et n'importe qui peut rejoindre un GT, c'est ça que
vous expliquez ? Tout à fait. Alors, il y a juste les référents base et les référents base où c'est un système de cooptation qui a été mis en place. C'est-à-dire que bah, quand il y a un bénévole qui est venu un certain nombre de fois, qui a envie de s'impliquer un peu plus et en fait on va le proposer pour qu'il puisse devenir, pour avoir plus de responsabilités dans la base.
Voilà. D'accord, merci.
Là on a pas mal parlé de la question de la gouvernance, ça peut être aussi, et c'est essentiel d'avoir dans des cercles concentriques comme tu dis dans un lieu complexe, de pouvoir trouver des façons de continuer à avancer. À l'extérieur, on a un petit peu parlé là pour l'instant du fait qu'il y avait des ateliers sur Marseille en transition, notamment particulièrement dans le quartier des Chartreux, et des liens qui se font avec l'après-M. Mais voilà, pour le citoyen, la citoyenne qui nous écoute et qui ne vous connaît pas, quelles sont les actions que vous menez et qui sont concrètes, sur lesquelles ils puissent vous rejoindre, les interactions que vous avez avec d'autres, etc.
Ce qui est important de souligner, c'est que ce samedi, nous faisons une grande fête de quartier, la fête de l'été, qu'on a planifiée un peu avec Marseille en transition et pour lequel on attend tout le monde, l'habitant et l'habitante, les gens de ce quartier et d'autres. Et puis, dans le temps, on va essayer aussi d'avoir ce qu'on a mis en place déjà par rapport à l'ouverture du lieu de la base, donc qui est une chose différente. C'est des permanences qui permettent en fait, d'avoir le lieu ouvert à partir de 10h jusqu'à 18h en règle générale et même plus tard.
Alors juste la fête de l'été, ça sera où pour que c'est à la base même ?
Sur la place des Chartreux, parce qu'on va faire une grande fête à ciel ouvert avec de la bonne météo, j'espère, et il y aura plein d'animations, de la confiture d'abricot maison, de la musique live avec le groupe de la base, parce qu'on a un groupe de musique qui chante des super chansons avec des paroles détournées militantes.
Dont Louis fait partie, évidemment.
Donc c'est super chouette et enfin il y aura plein de choses, de l'initiation à la lessive de lierre, il y aura des stands d'associations, enfin c'est vraiment un moment convivial où on peut rencontrer les gens et partager.
On a dû refuser BFM TV et TF1 pour par rapport à ce type d'information là, on était saturés en fait par tous les médias.
Voilà. C'est pour ça qu'on est venu chez vous d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Mais en même temps Radio Galère c'est peut-être la radio la plus adaptée pour parler de ce genre de questions.
Oui. D'accord.
Et alors du coup, quelque chose qu'on aborde assez souvent, c'est la question, c'est le mot bénévole qu'on entend dans vos bouches depuis le début. Donc bénévole, qui signifie du coup que vous me voyez pas parce que j'utilise plein de guillemets, mais c'est du temps dit libre, alors que bon, c'est pas forcément être libre et c'est pas forcément, enfin, c'est un travail qui n'est pas rémunéré.
Ouais.
La question que je me pose, et qui est une question que je me pose depuis longtemps d'ailleurs, pas juste pour cette émission, et comment est-ce qu'on fait pour embarquer un grand nombre de personnes sur les grands chemins de la transition ? Je m'explique. Il y a une période où j'avais dans ma vie un parcours assez classique, puis ensuite j'ai fait un grand basculement, j'ai été me tourner vers des propositions beaucoup plus radicales pour des alternatives qui soient bas carbone, pour rester dans le cadre des 2 tonnes de CO2 qu'on a le droit d'émettre par an si on veut respecter les accords de Paris. Mais il y a un moment où on se coince un peu par rapport à une certaine forme de réalité, il y en a d'autres des réalités, la réalité elle est complexe, mais qui fait qu'il faut qu'on ait quand même un toit, de quoi manger, avoir un équilibre de vie qui nous permette de subvenir à nos besoins. Arthur, qui est ici autour de ce plateau, il est avec moi en colocation solidaire, ça fait partie par exemple de ces équilibres qu'on a pu trouver pour avoir un loyer moins important par exemple. Quelles sont donc les propositions qui peuvent exister pour que voilà, on puisse embarquer les gens et qu'il puisse y avoir un vrai effet de masse avec beaucoup de personnes qui puissent se joindre dans ces questions-là.
Vie, vous voulez...
Ouais. Moi, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que je me la pose aussi tous les jours.
Mais c'est une question ouverte. Hein. On peut faire une tempête de cerveau entre nous sur l'espace de 5 minutes avant de passer sur d'autres sujets.
Moi, un truc que je pourrais dire, vu que je suis aussi bénévole à la base, j'ai eu un moment où j'ai passé plus de temps qu'aujourd'hui, mais j'y retourne toujours régulièrement avec grand plaisir. Et quelque chose qui est très intéressant aussi quand on traîne autour de la base, c'est toute la solidarité qu'il y a entre les personnes, que ce soit des conseils qui peuvent être donnés ou même des maraudes informelles. Combien de fois il y a quelqu'un qui ramène des légumes qu'il a en trop pour partager un repas, ou du pain en trop pour partager avec des personnes, ou même des pseudo maraudes qui n'ont pas pu être faits parce qu'il n'y a pas assez pour donner, et qu'on arrive à la base, on peut prendre un peu de pain, pas avoir le sang complètement vide, et ça, mine de rien, ça peut attirer certaines personnes.
Et tu vois, là-dessus, ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'on utilise des termes comme la solidarité et une forme, tu sais, de alors choses que... un peu avec des mots un peu compliqués, alors qu'en fait, c'est le bon sens des choses. Ouais. Je crois qu'on est dans une société aujourd'hui où on est en phase avec ce qu'on... les autres, avec nos intentions, mais surtout en fait avec le fait qu'on est des humains, quoi. Je veux dire, on n'est même pas, c'est même pas une histoire d'être sain, d'être naïf ou quoi que ce soit. En fait, la société doit continuer de fonctionner de cette façon-là, avec de l'entraide, parce que on a toujours fait comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est même de dire de voir des grandes villes fonctionner à l'inverse, quoi. Non?
Évidemment.
C'est anti-gaspi. C'est pas de la solidarité, c'est plus de l'anti-gaspi que tu voulais dire. Par rapport justement à cette nourriture, au lieu d'être jetée, on préfère la donner plutôt que de la jeter.
Un rapport au troc, peut-être aussi à la monnaie temps. Enfin, là, on a parlé de la roue un petit peu tout à l'heure. J'imagine que ça fait partie de ces premières pistes de réflexion sur comment est-ce qu'on arrive à proposer des modèles alternatifs qui font que ceux et celles qui s'inscrivent dedans puissent vivre dignement, quoi.
D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont adhérentes à la roue, on accepte les roues au bar de la base.
Avec un tarif préférentiel en plus. On essaye de mettre en avant justement cette monnaie locale, et du coup, on fait des tarifs plus avantageux en roues qu'en euros.
Et ils seront présents d'ailleurs le samedi 25 juin, ce samedi, à la place des Chartreux, puisqu'il y a un stand qui leur est dédié.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer en une minute ce que c'est que la roue, pour celles et ceux qui ne savent pas ?
Alors, la roue, c'est une monnaie locale, citoyenne et complémentaire, une MLCC, qui fait partie du paysage de la roue, en règle générale, sur sept territoires en Provence et Alpes, et d'un réseau national, effectivement, qui s'appelle la Sève la Roue, donc qui nous permet, en fait, de contribuer à des échanges directs, c'est-à-dire, en fait, de commerçants à particuliers, de particuliers à commerçants, au travers d'une ville, sur le territoire marseillais, par exemple, où effectivement, en fait, il y a une monnaie en circulation qui est faite de billets aujourd'hui, peut-être qu'il sera dématérialisé demain, c'est le projet, et pour lequel 1 euro égale 1 roue. Pour ça, ça se passe en 3 étapes, en fait. Première chose, un adhérent, par exemple, particulier. Toi, demain, tu veux... Je parlais pas dans le micro. Si demain, toi, tu veux effectivement rentrer dans cette démarche-là, il faut adhérer à l'association, principe bête et méchant. La deuxième chose, effectivement, c'est de changer tes euros en roues. Et pour ça, il y a des bureaux de change qui sont soit des commerçants, soit des personnes physiques, que sont par exemple le salarié de la roue, Barthélémy, ou d'autres personnes comme moi.
Que vous pouvez retrouver, Barthélémy, que vous pourrez retrouver le
jeudi de midi à 17h. Merci. Tous les jeudis.
Et puis, troisième étape, effectivement, c'est de voir dans quel quartier vous êtes. Vous allez sur le site de laroue.org pour voir quels sont les commerçants autour de chez vous, épicerie, baguette, enfin, boulangerie, et puis l'achat du quotidien qui sont participants à ce réseau. Et auquel cas, vous pouvez facilement et directement aller échanger vos roues contre leurs produits. C'est simple.
Un très beau projet, en tout cas, la roue.
Et est-ce que... quelle est l'inscription un peu dans l'archipel marseillais de la base ? Parce que là, on parle de la roue qui est finalement une monnaie qui permet d'aller acheter un peu à droite à gauche un certain nombre de biens existentiels. Mais après, on a un petit peu parlé de l'après-midi au début. Quels sont les liens avec les autres structures, les autres associations qui ne sont pas forcément à la base, mais qui sont quand même extrêmement foisonnantes à Marseille, et qui font qu'il peut y avoir un petit fourmillement comme ça qui permet à un moment de basculer.
Alors, c'est que la géographie de Marseille, on la connaît. Elle fait qu'on est quand même à distance les uns des autres, mais on essaie de se réunir et de voir des projets en construction. Celui de Marseille en transition, il va être effectivement qu'on crée éventuellement, entre guillemets, une trame verte, c'est-à-dire qu'on relie de façon un peu plus fraîche et verdoyante ces deux tiers-lieux, puisque là, on parle quand même aussi de deux tiers-lieux. Hein.
Le deuxième étant ?
Le LICA.
Ok.
Et aussi... Enfin, on parle de la base Marseille, mais en fait, la base Marseille fait partie du réseau national des bases, donc des Alternatibas, parce que ça a été lancé par Alternatiba à la base. Mmh. Et du coup, en France, il y en a environ une dizaine, plus ou moins officielles, donc qui ont plus ou moins lieu, ça dépend des moments. Et en fait, on bénéficie aussi de tout ce soutien-là. En fait, donc il y a des réunions mensuelles des Alternatibas, où justement, il y a beaucoup de partage d'expériences. Et de compétences aussi, et notamment on a un projet qui est tout jeune avec le réseau des Alternatibas, c'est le projet de base en chantier, et en fait ils se sont rendus compte que développer des bases, donc c'est-à-dire trouver des lieux et les monter, c'est assez facile entre guillemets, puisque ça pullule dans toute la France depuis un petit moment, mais les développer et les maintenir en fait, et les laisser exister, c'est plus compliqué. Et du coup, on est donc la première base qui va voir naître ce projet et qui va bénéficier de ce projet. Et en fait, ça va être justement de rassembler sur une semaine de chantier participatif des gens de toute la France avec des compétences énormes dans tous les sujets pour faire un super changement dans notre base et la rendre encore plus belle, quoi.
C'est sûr que là... Pardon, tu voulais intervenir ?
Ouais, parce qu'on a eu la chance il y a quelques semaines d'avoir la réunion de Alternatiba France. Donc sur un gros week-end, on a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues. Et c'est vrai que ça a redynamisé réellement la base, parce que c'est vrai qu'on parle là de tout ce que la base fait, mais c'est vrai qu'au quotidien, parfois, ça peut être un peu lourd. On a un manque de bénévoles qui peut parfois se faire ressentir. D'ailleurs, toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent participer, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. On a besoin de forces vives. Et justement, à cette occasion, le fait d'avoir des gens qui ne viennent pas de Marseille de façon ponctuelle, ça a apporté une certaine fraîcheur et ça a redynamisé vraiment tout l'équilibre de la base.
Moi, je voulais juste rajouter une petite chose. Elle est qu'aujourd'hui, ce qui nous fait avancer aussi avec vitesse et surtout avec beaucoup de nouvelles envies, c'est la créativité, en fait. Je crois que c'est un point sur lequel on discutait avec Caroline de Cœur de Cagole aujourd'hui et qui souhaiterait, dans les temps à venir, les mercredis notamment, alors après-midi, je pense, faire des ateliers et ouverts au public de façon en fait, à ce qu'on se réapproprie en fait, toutes nos champs de possibles, notre pouvoir, en fait, en quelque sorte. On pourrait simplement dire, de toute façon, d'ailleurs, qu'on nous a brimé un peu avec un mode de consommation édicté et une façon un peu monolithique de voir les choses. Et ce lieu de la base, vraiment, je tiens à le souligner, il permet ça, quoi. De se réapproprier l'inventivité, la créativité dans nos vies.
Ouais, c'est très juste ce que tu as dit et... C'est un peu l'aspect que j'avais compris de la base, c'est un véritable un hub, entre guillemets, où tu as énormément de personnes et de collectifs qui passent par là, donc pour la créativité, pour l'échange des idées, pour être au milieu de tout un fourmillement, c'est vraiment parfait. Et à côté, vous travaillez avec toi, tu nous as dit le LICA, mais je sais qu'il y a des liens avec... l'APREM, la DAR et d'autres encore. Il y a des maraudes qui font des personnes qui font des maraudes sur le collectif cuisine et qui vont organiser des maraudes à d'autres endroits, à d'autres moments. Donc c'est un peu l'endroit où être pour rencontrer les personnes du milieu.
Et puis c'est vraiment ça qui nous nourrit. En fait, justement, en discutant avec elle cet après-midi, Caroline, elle me disait qu'en fait, on peut utiliser par exemple des goutte à goutte en maraîchage. Peut-être que vous savez ce que c'est. Les paysans qui produisent des légumes diversifiés et qui, une fois que les tuyaux sont percés, nous permettent, en tout cas sont embêtés dans la mesure où ils ne savent plus quoi en faire. On peut trouver aussi aujourd'hui des façons d'en faire des paniers, d'en faire des objets de réutilisation importants, alors qu'on pourrait penser que c'est un simple bête plastique.
Mais il y a des filières de upcycling à développer.
C'est exactement ça.
Et là, il y a aussi une question de la créativité, comme tu dis, et qui s'incarne également par la culture. Et ce que je vous propose, c'est qu'on en discute après notre pause musicale. On vous laisse nous présenter la chanson que vous avez décidé de nous faire écouter ce soir.
Alors, on a choisi Les Copains d'abord, tout simplement parce que le groupe de la base, qui fait des super chansons détournées et qui va jouer samedi sur la place des Chartreux, a détourné cette chanson. Qui s'intitule en détourné Les requins à tribord.
À tout de suite.
Merci beaucoup.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Vous êtes de retour sur Radio Galère sur le 88.4, toujours dans l'émission Écoforum. Nous accueillons ce soir La Base avec Louise, Charlotte, Florent et Arthur. Et pour introduire cette deuxième partie d'émission, nous allons un peu plus nous tourner sur la question de la place de la culture pour pouvoir avoir vraiment des basculements. de société, et notamment sur la place des imaginaires et des récits pour permettre ce qui concerne la convergence des luttes, ou finalement, que ce soit sur des questions féministes, sur des questions de protection de l'environnement, protection du vivant, liées aussi aux questions d'identité de genre ou sexuelle. Comment est-ce que tout ça s'imbrique et en quoi est-ce que la base peut participer à ce que ces causes puissent être entendues et défendues.
Du coup, au niveau de la convergence des luttes, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'écologie, mais on a aussi des collectifs féministes et LGBT. Pardon. Et pour revenir à ta question des récits et des imaginaires et de la culture, c'est vrai qu'on essaye vraiment de développer cet aspect-là à la base. Et on a notamment, par exemple, on accueille des conférences gesticulées, donc ce qui mêle théâtre et conférences, on va dire.
C'est quoi une conférence gesticulée ?
En gros, c'est comment aborder un sujet sérieux de façon fun.
Ok.
Parce que souvent, quand on parle de collapsologie ou de tous les sujets, j'ai envie de dire, on a un auditoire qui va s'endormir assez vite.
Ou stressé sur la collapsologie.
Ou stressé.
Ou anxieux.
Donc l'idée, c'est d'associer un peu tout cet univers culturel, un peu de théâtre, de musique, de danse, tout le champ des possibles est ouvert. C'est vraiment la personne qui va proposer la conférence, qui va se l'approprier et va essayer de mettre de sa personne dedans pour embarquer l'auditoire proposer en fait un changement de pensée, de société.
Je voudrais proposer l'exemple de Franck Lepage, qui est connu aujourd'hui pour ses vidéos YouTube, puisque c'est un conférencier qui fait des récits de plus de 3 heures, qui est assez épatant, notamment sur l'éducation populaire. En fait, c'est le parti pris de l'éducation populaire, et voilà, je vous invite à le regarder.
Et pour revenir sur les conférences gesticulées, on en a d'ailleurs deux qui se tiendront à la base jeudi, donc demain. Et ce sera Julie et Catherine qui vous présenteront deux conférences gesticulées. Et pour revenir aussi sur la question de l'imaginaire, lors du dernier festival des villes en transition, Festicité, il y a eu des ateliers d'imagination collective, notamment avec Rob Hopkins et Vivi du Pays des Alternatives, à cet atelier où j'ai participé. Et c'était vraiment super chouette de se regrouper. On était vraiment sur 10 thématiques différentes qui correspondaient aux 10 groupes de travail de Marseille en transition, mais qui du coup sont en fait les thématiques principales qu'on doit se poser, en fait, la question de l'énergie, des transports, de la nourriture, etc. Enfin, et en fait, on s'est posé et c'est passé à toute vitesse, mais on a réfléchi sur vraiment, en gros, des actions impactantes qu'on voulait voir pour Marseille sur l'échelle des 10 ans, mais aussi sur l'échelle des 1 an, parce qu'il faut des actions concrètes dès le début. Et en fait, c'était super intéressant de tous réfléchir ensemble et trouver des choses super à faire dans notre ville.
Ce qui est génial aussi, c'est de se dire qu'effectivement, on se réapproprie en fait cet espace-là, quoi, la ville. En l'occurrence, si on ne raisonne pas du tout à l'échelle d'un pays trop immense pour nous, là, c'est l'idée soit de réfléchir en termes pour le quartier et ou pour la ville. Et là, on en a les moyens et je crois qu'il faut vraiment qu'on ait ça en tête, en fait.
Effectivement, la place de l'imaginaire, là où elle est essentielle, c'est qu'elle permet de donner un certain souffle, en fait, une espèce d'âme, où on va dire sur des transformations qui sont parfois à différentes échelles, qui peuvent paraître techniques ou qui peuvent paraître d'être de l'ordre d'avoir à se sacrifier, mais en tout cas d'avoir à se contraindre. En fait, quand on l'écrit dans une autre histoire, quand on la comprend dans quelque chose qui fait sens, et où il y a ce récit narratif qui permet d'expliquer cette façon d'organiser la vie, ça vient éveiller l'imaginaire, exploser les possibles qui sont assez limités, où on est là à dire c'est ça ou rien, there is no alternative, comme dirait une première ministre anglaise des années 80. C'est sûr que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et alors du coup, est-ce que vous auriez quelques imaginaires à proposer sur... pour ce qui concerne Marseille, et notamment pour ce qui concerne les différents travaux qui peuvent être proposés par Marseille en transition.
Des imaginaires et des choses qui sont déjà faites, parce que en soi, à la base, c'est un lieu d'expérimentation de tous ces imaginaires, et c'est le premier endroit où on peut faire germer ces imaginaires-là.
Ouais, je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que Je pense que la raison d'être de la base, c'est vraiment de proposer un lieu où les gens peuvent se rencontrer. Et c'est là où, en fait, où moi, je l'ai déjà vécu. En fait, l'imaginaire, il se crée collectivement. Mmh. C'est-à-dire que moi, je me crée mon imaginaire dans mon coin, j'imagine c'est quoi la vie parfaite de l'écologie, etc. Et là, je rencontre d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même vécu, qui n'ont pas du tout les mêmes priorités. Et par ce lieu qui nous réunit, on va dire, tiens, et si on faisait un projet commun ? Et chacun va apporter sa pierre à l'édifice, et le résultat, personne n'aurait pu l'anticiper.
Et puis, ce qu'il y a d'important aussi là-dedans, c'est qu'en fait, le rapport de classe, en fait, est complètement effacé. On vient effectivement sans étiquette, a priori, et puis on devient simplement des individus qui participent à une société qu'on souhaite meilleure. Mmh. Et je crois que c'est vraiment ça aussi qui compte.
Et d'ailleurs, pour tous les collectifs, associations ou même individus qui ont envie de mener un projet, nous écoutent, vous pouvez réserver une salle en ligne. C'est très très simple. Il suffit d'aller sur notre site internet labasemarseille.org et ensuite d'aller dans l'espace pour réserver un lieu. Donc ça se passe, c'est tout en ligne. Et ensuite, c'est un paiement c'est un paiement en don libre, donc il n'y a pas de somme minimale, mais c'est, l'idée, c'est de faire vivre les projets et le lieu dans sa globalité.
Et si on n'a pas d'argent, qu'on a un collectif et qu'on n'a pas d'argent, on peut aussi s'investir bénévolement dans la base. Il y a toujours des choses à faire, des plantes à arroser par exemple.
Ou du ménage à faire.
Ou du ménage. Enfin voilà, on n'a pas besoin de donner de l'argent. Enfin voilà, les collectifs donnent vraiment ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent, et c'est super chouette. On a besoin d'argent, ça c'est sûr, mais on a aussi besoin de gens qui sont là et qui nous aident aussi à faire vivre la base.
Du mécénat de compétences ou même de la com sur les réseaux
pour... Ouais, la communication, ouais. Oui.
et là-dessus, on a eu un chouette retour, parce que récemment, on avait un peu des soucis financiers, en tout cas une inquiétude quant au futur de la base, pas pour des soucis financiers. Et on a eu un très, très, très bon retour de toutes les personnes qui soutiennent le projet et qui nous ont vraiment soutenus. Et aujourd'hui, on se dit, on peut continuer, même avec... au niveau financier, on peut continuer.
Top. Voilà. Mais on va avoir encore besoin, effectivement, de dons, de participation des associations et des collectifs pour continuer de payer le loyer, en fait, qui n'est pas donné, hein, je crois.
Ouais. Ouais. Et notre loyer, il est de 2 700 euros, charges comprises. Et c'est vrai que le bar représente une grosse partie des recettes, mais il ne fait pas tout. Et on a vraiment besoin de dons. Donc si vous n'avez pas de temps à nous consacrer et que vous avez l'impression que la base, après cette émission, est un chouette lieu, vous pouvez nous faire un don en ligne aussi. Le lien, c'est labasemarseille.org/nous-soutenir.
Voilà. Et un autre projet qui est en train de se créer là, on est en train de récupérer de l'argent pour acheter de la peinture et faire une fresque murale, parce que pour toutes les personnes qui ne sont pas allées dans la base, quand on sort du métro et on arrive sur du métro Chartreux, on arrive directement sur la petite place, et quand on rentre dans la rue Pierre Roche, au numéro 3 évidemment, il y a un espèce de porche. Donc la base n'est pas visible depuis l'extérieur, depuis la rue. Il faut vraiment rentrer, et là il y a un espace ouvert, donc tout l'espace est à la base, et la base est tout au fond, et c'est là où on peut trouver tous les différents espaces fermés.
Oui, on a une super artiste qui est prête à nous faire une super belle fresque et qui attend juste un peu de sous pour la peinture, en fait, tout simplement. Et donc ça devrait être fait incessamment sous peu.
Donner de l'argent.
En tout cas, le message est passé.
Ouais, le message est très bien passé, loin. Je pense.
Non, mais c'est normal. À un moment, il faut bien aussi... Ça vient aussi un peu compléter la question tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait vivre un tiers-lieu, comment est-ce qu'on arrive à entraîner des questions de basculement de société. À un moment, l'argent est au cœur de... Enfin, c'est le nerf de la guerre. Il y a des vieux adages qui sont roulés par les temps et qui ont quand même une certaine raison d'être. Même quand on essaie de transformer les imaginaires, il y a quand même des apprentissages ancestraux là-dessus. Peut-être que et Arthur, ouais.
Pour revenir justement sur les imaginaires, l'un des imaginaires qu'on m'a partagé lors de mes discussions à la base avec d'autres bénévoles ou personnes de passage, c'est que justement, ils aimeraient pouvoir vivre sans argent, et avoir un mode de vie qui fonctionne sur la récup, le partage et la réutilisation des ressources. La personne me disait, moi j'ai un lieu de stockage, une cave ou un grenier, je sais plus. Et il récupérait des choses et après il les redonnait ou alors il les réutilisait pour fabriquer d'autres choses. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais aujourd'hui, c'est très compliqué de fonctionner comme ça. Donc, l'argent, le nerf de la guerre, mais un petit rêve que ça devient de moins en moins nécessaire. Et je pense qu'il est vécu au quotidien, à la base, avec vos fonctionnements. Justement, si vous demandez autant de dons, c'est parce que, d'un certain sens, c'est pas obligatoire. Et chacun peut venir et participer avec ses propres moyens, que ce soit en nature ou en monétaire. Il y a plein de façons de faire vivre et donner ce choix et permettre de faire ce choix. Je trouve que c'est de faire ce choix en notre propre âme et conscience. C'est un peu comme les repas prix libres que l'on voit un peu plus naître un peu partout. C'est un très bel imaginaire. Mais pour revenir justement sur vos imaginaires, la question à Marseille en grande échelle, quel est l'imaginaire que vous auriez envie de partager? Moi, j'en vois un.
Est-ce que je peux compléter la question?
Oui.
Imaginez que je sois un décideur des institutions. Vous savez que là, en ce moment, à Marseille, il y a un certain nombre de grands projets de transition. Il y a la Cité des Transitions d'un côté, il y a les projets de Macron, si jamais il arrive à les mettre en place avec les élections législatives qui viennent d'avoir lieu. Et puis, il y a aussi le fait que Marseille, depuis maintenant le mois d'avril, est lauréate de la candidature européenne aux 100 villes décarbonées, qui est un programme européen dans le cadre du Green Deal, où 100 milliards d'euros vont être distribués pour 100 villes. Et Marseille fait partie des 30 premières à être choisies, où il va y avoir 350 millions d'euros qui vont être investis, notamment pour la grande transformation des infrastructures. Voilà, le décideur, il arrive, il a une énorme enveloppe. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que, on dit, bon, on commence par où? Nous, on a expérimenté des choses. Nous, on a un savoir-faire parfois situé d'une compétence de ce lieu ou de savoir comment est-ce qu'on fait pour embarquer des citoyens ou savoir comment est-ce qu'on fait pour réaménager, je ne sais quoi, un jardin, un bâtiment. Par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce que vous chuchoteriez à cette oreille pour que ça, on puisse faire ça tous ensemble?
En fait, ce dont on parlait tout à l'heure qui était important, ça va permettre de répondre à la question. C'était la convergence en fait, des causes. C'est quand même notre raison d'être à la base. Et un projet associatif, ou en tout cas collaboratif comme celui de Marseille en transition, de créer une trame verdie, je crois que ça en fait partie en fait, parce qu'on peut le voir comme un simple projet écologique, mais on peut aussi le voir comme un lieu de rencontre, de passage, d'expression. En fait, un lieu où on se parle, quoi, tout simplement. Tout simplement, je vois ce projet-là, mais je pense qu'il y en a bien d'autres.
C'est un projet vraiment clé dans ça. C'est pas que ça. Tu as aussi l'aspect déperméabilisation des sols qui est
nécessaire.
Ouais. Amélioration de la biodiversité, de la qualité de l'air, détruire un peu l'îlot de chaleur, tout ça, ça en fait partie aussi. Et il va falloir faire des choses comme ça à plus grande échelle à Marseille pour atteindre des objectifs.
Ah. Il paraît qu'il fait chaud, ouais. Hein.
Ah, ouais. Il fait chaud.
Il y en a qui utilisent des éventails.
Alors, vous ne voyez pas, mais Marin est en train de s'éventer.
Exactement.
Et ouais, ça, c'est un imaginaire qui est à reconstruire parce que j'ai un éventail qui est absolument ridicule. Et en même temps, quand il fait super chaud, on n'a pas trop le choix. Mais... Bref, je m'égare. Donc effectivement, il y a la question des trames vertes, la question de la désimperméabilisation des sols. Et puis après, il y a aussi le côté archipel, j'imagine, parce qu'on a la chance d'être dans une ville qui est en friche. Il y a un grand nombre de friches. Il y a d'autres tiers-lieux qui existent et qui pullulent, qui naissent. Certains qui sont là depuis longtemps, d'autres qui y arrivent. Et qui rendent ce territoire extrêmement fertile pour faire émerger...
Bien sûr.
Ouais, c'est super intéressant pour relier tes deux commentaires. En fait, moi, j'aurais du mal à dire qu'est-ce que je dirais à un politique, parce que c'est une question où je me sens un peu loin. Mais avant que j'arrive à Marseille, j'étais dans un collectif qui s'appelait Les Jardinières Masquées, qui est né juste après le confinement, même pendant le confinement, où l'idée, c'était, on a des problèmes d'approvisionnement en nourriture, parce qu'il y avait des problèmes de transport de nourriture. comment on fait pour résoudre la question. Et la solution qui a été proposée, c'est que chacun et chacune s'est réapproprié l'espace public et commence à planter. Et en fait, à Marseille, c'est complètement possible. C'est-à-dire que même si on est tout seul, parce qu'on a un bout de balcon, ou même si on est un petit groupe de potes et qu'on a un coin qui est en friche, ou on a un plus gros collectif potentiellement qui appartient au mouvement de la base, bah, chacun, à son échelle, peut se réapproprier l'espace public, planter et potentiellement se nourrir au moins un peu de cette action végétale qu'on met en place.
C'est des graines d'imaginaire que vous semez.
Littéralement.
Après, ouais.
Des bombes à graines.
Des bombes à graines.
Pour noircir un peu le trait, il faut quand même se rendre à l'évidence que d'ici 2024, une étude parue et disponible sur le site de la ville de Marseille dit que, de toute façon, les centres-villes, certaines périodes de l'été sont tellement sous canicule en fait, que ça sera invivable. Donc, il se pose aussi la question de nouveau de l'occupation du territoire, d'espace, et donc réinventer, réimaginer de toute façon ce qui va s'y faire, à savoir des résidences qu'on va virer pour y mettre des jardins partagés. Enfin, c'est de nouveau le bon sens, quoi.
En fait, c'est une question un peu dure que tu nous poses, mais il y a tellement de champs de possibles, tellement de pistes à explorer. Enfin, pour en citer quelques-unes, c'est juste, par exemple, végétaliser les assiettes, par exemple, créer des pistes cyclables. Bon, ça évolue un petit peu à Marseille, mais c'est très très lent et peu approprié dans certains endroits. Mais aussi, par exemple, arrêter les bateaux de croisière. C'est juste de la pollution de l'air horrible. Il y a eu une action, je ne sais pas si vous avez vu,
tout à fait.
Ouais, de Stop Croisière et Extinction Rebellion. Et c'était juste immense de se dire que 12 canoës bloquent le plus gros paquebot du monde d'entrée à Marseille. Enfin, voilà, plein de choses. Arrêter les extensions d'aéroports aussi. On n'a plus besoin maintenant de se déplacer en avion. En fait, il faut juste améliorer les mobilités douces aussi et voilà, se concentrer là-dessus et vraiment en fait investir l'argent là où il faut et pas dans les aéroports et compagnie, quoi.
Et dans la pub.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces pistes d'idées. Je pense que ça pourrait même faire l'occasion d'une émission à l'occasion.
Carrément.
Avec vous et d'autres invités, je pense qu'on aurait de quoi dire. Mais là, malheureusement, c'est bientôt la fin. Et il me semble que vous avez des petits messages à faire passer. Et j'aimerais commencer, avant que vous nous parliez de vos événements et de faire un appel à bénévoles et autres, que vous m'expliquiez. Je suis un bénévole, j'arrive à la base. Comment la personne est accueillie pour justement qu'elle sache qu'elle va faire tout ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives
Le mieux, c'est de venir à la base un mardi soir ou alors lors des permanences le mercredi et le jeudi où il y a Florent et Léo qui sont là toute la journée pour accueillir les gens. Et en fait, juste de discuter et de voir ce dont tu as besoin aussi, ce dont tu as envie. Enfin, après, ça peut être juste discuter comme ça avec les gens et en fait, au fur et à mesure, voir où sont les besoins aussi et voir où peuvent converger les besoins et les envies aussi du nouveau potentiellement futur bénévole. Et voilà, et on fait des accueils des nouveaux et des nouvelles régulièrement. Là, on n'a pas encore la date pour celui de juillet, mais faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram, La Base Marseille, sur Twitter aussi. Et sur notre site internet, dans la rubrique événements, on met à jour régulièrement. Et donc, si un accueil des nouveaux et des nouvelles, ça sera inscrit ici.
Il y a aussi la programmation qui est en ligne, donc vous pouvez savoir ce qui se passe à la base tous les jours.
Et en parlant de programmation, quels sont les prochains événements à aller voir?
La fête de l'été.
La fête de l'été à partir de quelle heure?
Un super concert.
À partir de 10h jusqu'à 18h, donc toute la journée sur la place des Chartreux, donc c'est ce samedi. Après, en ce moment, on a donc les conférences gesticulées qui sont demain soir.
Aujourd'hui, si vous nous écoutez en rediffusion le matin.
Oui, aujourd'hui, oui, pardon.
Aujourd'hui 23, du coup.
Ouais, exactement, à partir de 18h30. On a aussi des projections débat. On a un film samedi qui s'intitule Impunity. Et en fait, c'est une réalisatrice qui a fait vraiment un tour du monde partout pour voir les alternatives. Et donc, ça sera ce samedi à la base.
Eh bien, merci beaucoup. Il faut,
merci à vous.
Je suis désolé, on est, ouais. on est obligé merci de rendre beaucoup. L'antenne parce qu'il y a des personnes qui nous suivent après.
Ouais, on va simplement faire un petit remerciement, ouais, si tu es d'accord, à Shannon qui nous a accompagnés, qui est ici là.
Et à Marine aussi qui nous a pris en photo pour les réseaux sociaux.
En fait, on est entouré de gens tendres et affectueux, alors il faut les remercier.
Et les embrasser tous très fortement, ouais. ainsi que tous nos auditeurs et auditrices.
Oui, et merci à vous.
Merci Venez beaucoup. À la base.
Bah, merci pour ces beaux échanges et puis... On se retrouve pour notre part dès la semaine prochaine sur Écoforum Radio Galère. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.